Salut les amis, c'est Poulpiblast qui vous parle et bienvenue sur le 15e épisode d'Original Soundbloggers. Comme tous les mois, en tout cas on va essayer de reprendre un rythme mensuel. Nous allons vous proposer une quinzaine de musiques, aujourd'hui 16, sur les musiques de jeux vidéo donc. Et cette fois-ci le thème, ce sont les arrangements piano, hein, les piano collections. On en parle depuis un moment qu'on va le faire ce thème-là. On a parlé notamment le mois dernier quand on était sur les musiques du monde. Et donc piano collections en ce mois d'août. Et évidemment à mes côtés, quelqu'un qui a choisi encore énormément de musique pour ce podcast et qui va nous faire plaisir de partager ça avec nous, comme chaque épisode, Victor, alias Vicpor, qui est avec nous encore. Comment ça va, mon pote ?
Coucou, ben ça va bien. Alors, je m'excuse pour la qualité de mon son, qui sera peut-être un peu moindre que d'habitude pendant tout le podcast, parce que, bon, de vacances, je ne suis pas chez moi, et du coup, j'ai comme un con oublié mon micro. Donc, voilà. Et non, sinon, ça va bien. Voilà, comme tu l'as dit, on va essayer de reprendre avec mes mensuels, parce que c'est un peu la honte.
Et oui, effectivement, ce n'est que la 4e émission depuis le début de l'année, là où on avait prévu d'en faire 8. Mais bon, c'est la vie, hein, vous connaissez les aléas, vous les avez tous comme nous, hein, ça arrive. Et donc on va commencer pour cet épisode de Piano Collections par un jeu dont on a déjà parlé, je crois, du deuxième épisode. Là, il s'agit du premier. On va parler de Suikoden. Vous entendez en fond un morceau qui s'appelle Into a World of Illusions. Alors, évidemment, le principe là de ce podcast, ça va être qu'on va passer des morceaux qui sont pas dans les jeux d'origine, hein, qui sont sortis sur des albums, soit entièrement au piano, soit essentiellement consacrés au piano, mais pas que. Et donc là, c'est un morceau entièrement au piano. Donc le jeu s'appelle Suikoden, on l'a dit, sorti sur PS1 en décembre 95 au Japon, puis en France en avril 97, donc c'était un RPG, développé par Konami, et l'album de reprise que vous entendez là, s'appelle Kenso Suikoden Arrange Collection Volume 1 Vocals and Piano, sorti en décembre 2009. Volume 1 tout simplement parce qu'il y a un deuxième volume, hein, qui a été sorti 3 mois plus tard et qui est consacré aux réarrangements celtiques et asiatiques. Les arrangements sont de Hiroshi Fujimaki et de Mariko Hata pour cet album. Et une musique originale composée par pas mal de monde, ils sont 5. Donc l'album revient sur les 14 ans passés de la série et il est vraiment d'une très grande diversité stylistique, hein. Il y a un peu de tout, il y a de la pop, il y a du piano purement comme vous l'entendez en ce moment. Et Victor, on en parlait un peu avant l'émission, il y a énormément d'albums de Suikoden.
Ah ouais, ouais, c'est un truc de dingue. On est allé voir un peu et il y a une douzaine d'albums facile, je crois. Comme tu l'as dit, il y a de la reprise piano, il y a de la reprise celtique, il y a des arrangements vocaux, il y a des arrangements orchestraux, enfin c'est un truc de fou quoi. Moi je connais pas vraiment le jeu, juste de nom. Donc, je sais que c'est une série marquante du RPG, après j'ai jamais mis les mains dessus. Mais quand on voit le nombre de musiques, on se dit que ça doit être assez culte parce que vache quoi. Enfin, c'est rare que je connaisse des séries qui ont eu autant d'albums d'arrangements différents, quoi.
Effectivement, oui, c'est une série qui a beaucoup marqué son temps, qui fait partie de toute façon des classiques, hein, du RPG. Les premiers albums ont commencé, d'après en tout cas ce que j'ai pu lire, à fleurir au début des années 2000, notamment par un album de reprise de Genso Suikoden 2. Et comme on connaît pas trop Suikoden, on avait déjà eu l'occasion d'en parler lors d'un précédent épisode où on avait parlé juste des 108 personnages et qu'on n'avait pas su en dire plus, on va passer directement à la suite. Et la suite, c'est un jeu qui est vraiment très très peu connu en France, il s'appelle Ark the Lad. Il s'agit d'un tactical RPG sorti sur PS1 en juin 95. Et comme je l'ai dit, il est très peu connu dans nos contrées puisqu'il n'apparaît en France qu'en 2012 via le PSN. Alors qu'il a fait un carton vraiment au Japon assez fabuleux, il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Alors le compositeur de base s'appelle Masahiro Ando, qui a été également compositeur pour la série comme des Gran Turismo, hein, donc c'est un peu plus connu en France déjà.
Puis c'est assez différent, enfin les arrangements piano de Gran Turismo, je suis pas sûr que ça existe. Mais
c'est sûr.
Ouais, voilà, Ark the Lad. Alors je connaissais pas le jeu non plus, je suis allé voir, apparemment c'est un tactical en 2D qui est sorti en 95. Il y a eu des suites l'année suivante et il y a eu des séries animées adaptées aussi. Après je pourrais pas vous en dire plus parce que c'est pareil, j'y ai pas vraiment touché, mais je suis tombé sur la BO un peu par hasard. J'ai trouvé la reprise piano assez agréable, c'était une bonne surprise.
Effectivement, très très bonne surprise. Donc là, vous allez entendre effectivement le Arc Velade Piano Album, hein, il s'appelle comme ça. Le morceau qu'on va vous passer, c'est tout simplement le thème principal, Theme of Arc Velade. C'est un album d'arrangement qui a été fait par Keiichi Oku et qui est... Alors, faut pas le dire en français parce que Keiichi Oku, voilà. Hein, le... Et donc cet album d'arrangement est sorti en 2000. On va pas vous faire attendre plus longtemps et on va faire découvrir ce magnifique arrangement au piano donc du thème principal d'Arc Velade. De retour sur OSB, vous venez d'écouter le thème principal d'Arc Velade, repris au piano, puisqu'on va parler, donc, vous le savez maintenant, des pianos collections tout au long de cette heure de podcast. Les pianos collections, donc, c'est nombreux, nombreux albums, quasiment exclusivement au piano, qui nous sortent régulièrement, consacrés à des jeux ou à une série de jeux. Et là, en l'occurrence, on va parler carrément d'une console entière, même plutôt d'un constructeur de console, puisqu'il s'agit d'un album entièrement consacré à Sega, et même un peu plus particulièrement à la Dreamcast. Il s'agit d'un album qui s'appelle Sega Nocturne Piano. Il est sorti en 2005 et il a été arrangé et enregistré par Kiminori Atsuta. Pas mal de morceaux de piano issus des jeux donc de Sega et essentiellement de Dreamcast, à commencer par le morceau que vous entendez en fond. Il s'agit d'un jeu donc de Sega, forcément, sorti en 2000 sur Dreamcast, qui s'appelle Shenmue, jeu absolument culte, hein, parce qu'il y en a deux qui sont sortis, le troisième c'est un peu l'arlésienne des jeux Sega, les fans l'attendent depuis bien longtemps.
Bah c'est devenu comme la nouvelle console de Sega, c'est un running gag, à chaque E3, il y a « Oh là là, rumeur, il y a Shenmue 3 qui va sortir, il y a Yu Suzuki qui a bu un café avec tel créateur, du coup, ça veut dire que c'est tel studio qui va le faire, etc. » Enfin, les mecs, ils pètent complètement les câbles. C'est assez drôle.
Ouais. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi Shenmue 3, les droits avaient été rachetés par Sony et qu'on était encore en droit d'espérer. Alors bon, on verra comment ça se passera, hein. En tout cas, niveau musical, donc les musiques sont de Takenobu Mitsuyoshi et de notre grand copain Yuzo Koshiro, l'immense Yuzo Koshiro dont on parle assez régulièrement.
On peut, hein, vu ce qu'il a fait.
On va peut-être rappeler, voilà, c'est Streets of Rage, c'est donc évidemment Shenmue, c'est Actraiser.
Il a fait Trian Odyssey, il a fait Seven Dragon, Kid Icarus. Il a bossé sur Super Smash Bros. Brawl. Le mec, il a tout fait, quoi. C'est un monstre de la musique du jeu. Ouais, il a même fait Batman Returns en Sound Management. Ça, c'est la classe.
C'est clair. En tout cas, bah, Shenmue, pour en revenir au jeu en lui-même, faut savoir que c'est le plus gros budget de l'époque pour un jeu. Quand Shenmue est sorti, c'était l'équivalent de GTA V aujourd'hui. Un jeu qui avait un budget de 47 millions de dollars. Sauf qu'évidemment, comme la Dreamcast est affoirée, le jeu a fait un gros bide commercial, ce qui peut expliquer qu'après Shenmue 2, il n'y a pas eu de suite d'ailleurs. Donc vous entendez un morceau qui s'appelle Shenfa. Alors, le morceau en jeu s'appelle Shenfa, mais le morceau arrangé s'appelle Shenfa, Song of the Bay, the Purity, the Day, the Embrace and the Flower. Un titre pas long.
Moi, Shenmue, c'est pareil, j'ai honte parce que pendant ce podcast, on va passer plein de jeux, on va vous dire qu'on n'y a pas joué. Mais bon, que voulez-vous, les RPG, c'est bon à faire, ouais, mais pas forcément le temps. Personnellement, chez nous, c'est pas forcément un manque de temps, c'est juste que j'ai pas la console, j'ai pas le Dreamcast, et que j'attends juste un PC un peu plus puissant que l'usine à gaz que j'ai pour pouvoir me faire la version sur émulateur. Parce que tout le monde me dit que c'est un jeu culte, je vois partout que c'est un jeu fantastique avec une histoire de dingue et une assez grande épopée. Et la BO du 1 et du 2 passe très 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 souvent en boucle dans l'appart, donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le faire.
Il y a un podcast assez intéressant en fait qui, bon, il n'y a eu que deux épisodes, hein, c'est un peu dommage, mais voilà, il y a un type sur YouTube qui a fait des vidéos qui s'appelle Pixel Dreamers, qui parle de l'art du game design dans le jeu vidéo. Il y a eu donc que deux épisodes, le premier sur Chrono Cross qui parlait du style pictural dans Chrono Cross, qui était très intéressant, et le deuxième est d'autant plus intéressant que ça a été divisé en deux vidéos, et le type parle de l'interactivité dans Shenmue. Vraiment avec la manière de le raconter, c'est très 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 intéressant. Je vous invite donc à regarder. Les vidéos s'appellent Pixel Dreamers et le pseudo du gars c'est Kenji Seang, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et donc on va continuer avec cet album, le Sega Nocturne Piano, avec un jeu qui est quand même un poil moins connu en France, à part peut-être pour les amateurs d'animé. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Sakura Wars 3. De la série, évidemment, des Sakura Wars. Il est sorti sous le nom de Sakura Taizen 3, hein, exactement, sorti en 2001 sur Dreamcast. On va vous passer un morceau qui s'appelle Future. Victor, est-ce que tu t'es un peu renseigné, toi, sur Sakura Wars 3? Moi, personnellement, je suis pas du tout animé, manga, tout ça.
Je me suis renseigné, alors un petit peu aussi, hein, parce que, comme toi, les animés, c'est pas forcément ma cam. Apparemment, c'est une série de wargame tactique avec des éléments de dating sim. Donc, bon... Je t'avoue que ça m'a laissé assez perplexe, et que comme moi, quand on me dit dating sim plus wargame, j'ai pas forcément envie d'y jouer, et surtout que le compositeur est quand même pas une tanche, parce que le compositeur c'est Koei Tanaka, dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur le jazz, vu que c'est le mec qui a fait la musique de Gravity Rush.
Tout à fait.
Il a bossé sur The Commander Rearm, sur Resonance of Fate. Il a fait la musique des One Piece, et ce mec est quand même assez balèze. Je préciserai juste que voilà, pour la Sega Piano Collection, donc on en a parlé avec deux morceaux, mais je vous conseille d'aller écouter l'album entier, parce que c'est un album qui défonce. Il y a du Burning Rangers, il y a plein de musique, il y a du Knights, il y a du Seven Dragon.
Alors moi, je vois du Outrun, du Space Harrier, du Phantasy Star Online. Donc tu as parlé déjà de Burning Rangers, il y a du Knights.
Outrun de piano, ça vaut le coup quand même. Quand tu connais la musique originale, tu fais what?
Ouais, c'est. On a hésité à le passer celui-là parce que c'était vraiment un très très beau morceau aussi. Donc on vous invite, voilà. Il est en entier sur YouTube, hein. De toute façon, cet album, le Sega Nocturne Piano. Et donc on vous en passe un extrait en fond là avec Shenmue et un deuxième à l'instant avec Sakura Wars 3. Le morceau s'appelle Future. À tout de suite. Thank you. Vous êtes toujours sur Original Sound Blogger qui écoutait ce 15e épisode en compagnie de Victor et de moi-même Poulpi Blast. Pas d'invité ce mois-ci, ni même de troisième larron, hein, parce qu'Onink est toujours vacant, hein. Ça fait la deuxième émission déjà que nous faisons sans lui malheureusement. Et nous allons continuer donc autour des Piano Collections, un de ces albums de réarrangement de musique de jeu au piano, avec un jeu dont on a déjà parlé plusieurs fois, en tout cas au moins au premier épisode où on en a pas mal parlé. Donc un album qui s'appelle Transfiguration et qui est la Piano Collection de Journey. Donc Journey, le fameux Game of the Year 2012. Je pense que c'est pas la peine d'en parler davantage. Donc vous entendez un morceau qui s'appelle A Road of Trials. C'est un peu un des deux trois morceaux qui s'éloignent du reste de la BO d'ailleurs, hein. En parlant de la BO originelle, les morceaux sont à peu près suivent à peu près tous le même chemin, sont tous issus de la même suite d'accords. Et Road of Trials, c'est un des deux trois qui s'échappe un petit peu de ça. Victor, c'est toi qui a proposé ce Journey.
Ouais, carrément, parce que c'est un album qui est sorti il y a pas longtemps, vraiment pas longtemps en l'occurrence, et qui a été assez remarqué, étant donné que la musique de Journey est déjà assez extraordinaire, est déjà assez reconnue, que Steven Winter est un compositeur absolument d'un talent monstre. Enfin, le mec a fait Banner Saga derrière, et il a fait un morceau pour Sound Dodger que je vous conseille d'aller voir, parce qu'il est incroyable. Et du coup, il a voulu sortir cet album, cette Piano Collection. Alors, une Piano Collection qui a été arrangée par Robert Theis et Laura Intravia. Laura Intravia, que je ne connaissais pas, et en fait, je suis allé voir ce qu'elle a fait. Et elle a fait pas mal de trucs, parce qu'elle fait de nombreuses reprises piano de musique de jeux vidéo, du Zelda, du Mario Kart, du Mario World, elle a fait du Castlevania, du Chrono Trigger, etc. Et elle a fait pas mal de performances live avec pour les Video Games Live, sur du Zelda, du Mario aussi. Elle a fait pas mal d'arrangements pour des morceaux, et elle est aussi chanteuse. Elle est aussi chanteuse pour des morceaux classiques. Elle a fait pas mal de trucs.
Donc Laura Intravia, on rappelle son nom. Voilà, donc Journey, est-il besoin d'en parler plus, hein? Je pense que maintenant vous connaissez un petit peu le principe, on vous en a souvent parlé. Et on va directement repartir du côté de la PS1, hein, puisqu'on en parle déjà, on en a déjà parlé pas mal de la PS1, mine de rien, dès ce début d'émission, avec un jeu qui a fait l'unanimité quasiment au niveau musical. Le jeu s'appelle Wild Arms, c'est donc un RPG de Sony sorti, on l'a dit, sur PS1 à la toute fin de l'année 1996. Dans un style entre le western et la science-fiction. Alors, Wild Arms, donc là on va en parler du premier jeu de la série, il y en a eu 8 au total, en 11 ans, donc très grosse productivité de la part de Sony. Les musiques sont de Michiko Naruke, qui est le compositeur attitré des Wild Arms. Et en fait, on va vous passer un morceau d'un album qui s'appelle Wild Arms Music The Best, Feeling Wind. Donc c'est un album qui est sorti en 2006 et qui retrace 17 morceaux de toute la saga, hein, peu importe, le 1, le 2, le 3, les spin-offs, tout ça. Et là, on va vous passer un morceau du premier Wild Arms qui s'appelle Abbey. Alors, que peux-tu nous dire, toi, Victor, au sujet de Wild Arms ?
Sur Wild Arms, eh ben, c'est encore un jeu auquel je n'ai pas joué, je vais vraiment passer pour un inculte, c'est absolument magnifique. Je peux pas t'en dire énormément de choses, à part que c'est un jeu qui est apparemment beaucoup inspiré de l'univers western et de tout ce qui est Far West. Donc la musique a été faite par Michiko Naruke, tu l'as dit. Un mec qui a aussi fait la musique de Alfinute Hero, qui est un super jeu que je vous conseille. Où en gros il faut sauver le monde en 30 secondes à chaque fois. Et donc on avait quelques petites anecdotes sur la vidéo de Wild Arms. Tout d'abord que c'est donc la musique qui est très inspirée du western. Et on retrouve dans le jeu des mélodies de Ennio Morricone pour le côté le truand par exemple. Notamment le thème principal, je crois. Et en parlant d'Ennio Morricone, on va revenir sur Koei Tanaka, dont on parlait tout à l'heure, parce que ce mec se fait quand même appeler Monryo Erikon Jr. Pas du tout un égotisme à mentionner, quoi, de base. C'était assez. J'ai pas mal rigolé quand j'ai vu ça.
Voilà, le mec qui se place à côté des plus grands, tout seul, comme un grand. Ouais. Alors j'en profite parce que là j'ai un livre sous les yeux qui est vraiment pas mal du tout. C'est un des derniers bouquins de Pixel Love. En fait, c'est un duo de bouquins qui s'appelle VGM et OST, Video Game Music et Original Soundtrack. L'un est plus littéraire, on va dire, raconte l'histoire de la musique de jeu à travers le temps, à travers les âges, l'évolution, etc. Et l'autre, c'est un peu un dictionnaire des 100 albums indispensables des musiques de jeux vidéo. Et parmi ces 100 jeux cités, il y a justement Wild Arms. Et on découvre donc effectivement voilà ces références non cachées à Ennio Morricone. On se rend compte qu'il y a un nombre assez important d'albums d'arrangement aussi. Hein. Il n'y a pas que ce Feeling Wind, il y a également Rocking Heart, qui est beaucoup plus rock évidemment. Il y a un Vocal Collection. Voilà, il y a pas mal d'albums qui sont sortis autour de ça. Et donc voilà, je vous conseille ces bouquins VGM et OST chez Pixel Love qui sont très intéressants. Et pour ceux qui écoutent des musiques de jeu sur YouTube, vous devez sûrement connaître les playlists Supra Darky, hein, qui upload régulièrement ses musiques préférées. On a mis plus de 1500 sur YouTube, et la toute première qu'il a mise, c'est une musique de Wild Arms. Si c'est pas une preuve ça que ce jeu a marqué la musique de jeu, et ben voilà. Donc on va vous passer un morceau qui s'appelle Abbey, donc extrait du jeu Wild Arms, ou plutôt de l'album d'arrangement Feeling Wind, donc de Wild Arms. Et on revient après pour parler d'un fil rouge qui nous tient à cœur depuis un très long moment. À tout de suite. Thank you. on vous le disait, on va passer à nos fils rouges. Alors, on vient de parler de Wild Arms, celui-là était un petit peu nouveau sur OSB. Maintenant, on va longuement, en plus, on va vraiment longuement parler de la série de jeux dont on parle très régulièrement et qui a vraiment amené finalement cette culture des piano collections dans le monde du jeu vidéo. Il s'agit de Final Fantasy. Bon, on va pas épiloguer sur Final Fantasy puisqu'on en parle régulièrement, on essaye d'en faire à chaque fois des nouveaux, on en reparlera tout à l'heure un petit peu de jeux dont on avait déjà parlé. Là, on a décidé d'en choisir deux dont on n'avait jamais parlé. Le premier, c'est à raison, enfin pas à raison, mais en tout cas, c'est un peu plus compréhensible que les autres, puisqu'il s'agit du tout premier Final Fantasy, sorti sur NES en 1987, donc un jeu quand même qui date d'il y a un petit moment. Les musiques étaient déjà, à l'époque, composées par Nobuo Uematsu, et la chanson que vous entendez actuellement en fond, donc de Final Fantasy 1, il s'agit du thème Matoya's Cave, et qui est extrait là d'un album qui s'appelle Piano Opera Final Fantasy 1, 2 et 3. Un morceau qui a été enregistré, en tout cas là, joué au piano par Hiroyuki Nakayama.
Alors je m'excuse d'avance pour la partie sur FF qu'on va faire. Je ne suis pas un expert hein, de la musique de FF, donc je les connais presque toutes, je les ai écoutées en boucle. Mais moi je ne suis pas un pro de la série parce que j'ai pas le temps de tout se les faire. Et je ne suis pas un fan absolu, donc je connais la série beaucoup mieux que les autres, donc c'est pas moi qui vais sortir les anecdotes sur le jeu. Juste pour dire que bah voilà, j'ai écouté la Piano Collection de FF1, 2 et 3, qui est le même album en fait. Et Matoya's Cave m'a beaucoup marqué parce que j'adore l'énergie qui se dégage dans ce morceau au fur et à mesure en fait. Au milieu du morceau, ça part complètement en live et je trouve ce morceau d'une puissance assez dingue. Et c'est un des rares DLC que j'ai acheté sur Flight Horizon aussi, Matoya's Cave.
Effectivement, vraiment un très bon morceau et une reprise de piano assez fabuleuse. Donc vous entendez actuellement en fond. C'est vrai que le Final Fantasy, les trois premiers qui sont sortis sur NES, on en parle souvent très très peu. Puis les musiques d'autant plus d'ailleurs, on connaît évidemment la fameuse musique, le fameux prélude hein, qui a été repris dans la plupart des Final Fantasy ensuite. Et justement, ce prélude, il est repris dans le Final Fantasy dont on va parler maintenant, le morceau qu'on va vous diffuser. Il s'agit, à mon sens, du plus culte des Final Fantasy. Alors après, évidemment, ça déchire les fans, ça se discute, et il n'y a jamais moyen vraiment de savoir lequel est le meilleur, lequel est le plus culte, etc. Mais à mes yeux, celui dont j'ai toujours entendu parler le plus souvent quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, et même aujourd'hui, il s'agit de Final Fantasy VII, le premier... sur PlayStation, hein, le premier de la trilogie PlayStation, Final Fantasy VII, donc avec le premier jeu en 3D, avec les personnages avec des moignons et tout. Un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs, dont la mienne. Alors moi, c'est vrai que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, Final Fantasy VII. Hein, finalement, à mon grand regret, parce que si je l'avais découvert plus tôt, ça aurait été fabuleux.
Ouais, moi, j'en suis à la moitié, à peu près.
Voilà, moi j'en suis. Non, j'ai fini le jeu il y a de ça un an et demi maintenant. Et donc on va vous passer un morceau qui est tout aussi culte, je pense, que le jeu. Alors c'est pas le morceau le plus culte, mais il s'agit du thème du boss Genova. Alors on va pas trop en parler de ce Genova parce que ça va vous spoiler si on en parle. Il y a peut-être prescription pour beaucoup, mais ceux qui ont envie de faire FF7, si on vous parle de Genova, ça va vous tuer, je pense, une bonne partie de tout l'intérêt du magnifique scénario du jeu. Et donc voilà, ce thème de Genova fait partie des grands classiques de la musique de Final Fantasy VII et je pense a aussi marqué toute une génération en devenant un thème de boss absolument, absolument mémorable, un thème de boss pas final mais pas loin. Donc toi du coup tu n'y es pas encore à entendre ce magnifique thème.
Non, je vais vous raconter un peu ma vie, mais j'ai commencé le 7 en fait et j'ai fait une pause pendant 3-4 mois à cause du taf, etc. Et du coup je sais pas pourquoi j'ai pas recommencé le 7, j'ai lancé le 9. Donc maintenant je suis dans le 9, et je relance le 7 quand j'aurai la foi. Mais ce que je peux dire du 7 pour l'instant, c'est que je suis impressionné par le rythme de ce jeu. Généralement les RPG, ils débutent toujours un peu chemin. Ou alors c'est laborieux parce qu'ils sont plus level up à faire, etc. Et je trouve que le rythme de FF7 est incroyable. Faudrait qu'il donne des leçons à FF13 d'ailleurs, dont on reparlera tout à l'heure. Parce que c'est assez mémorable la manière dont le début du jeu s'agence et le fait qu'on a toujours envie de continuer, c'est assez impressionnant.
Mais c'est justement bien ça qui a fait un peu qui a fait la légende de FF7, c'est que tout le jeu quasiment est comme ça, et c'est une leçon de scénario, une leçon de scénarisme qui est absolument fabuleuse pour beaucoup beaucoup de monde dans le jeu vidéo. Et donc on va vous passer ce thème de boss réarrangé donc pour la Piano Collection de Final Fantasy VII. Il s'agit donc du morceau Genova, et on se retrouve ensuite pour continuer à parler de Final Fantasy, parce qu'il y a beaucoup à dire. Genova, donc, si vous l'avez reconnu, hein, extrait des Piano Collections de Final Fantasy VII. On va continuer avec Final Fantasy et ses Piano Collections qui font donc maintenant partie de la légende de la musique de jeux vidéo, finalement, à tel point que les Piano Collections viennent un petit peu de cet univers-là, des Piano Collections de Final Fantasy. Et c'est pour ça qu'on en a mis beaucoup. Et là, maintenant, en fond, on disait tout à l'heure qu'on allait en reparler. Bah, le voilà, le Final Fantasy XIII. On a déjà parlé du XIII sur des épisodes précédents, y compris du XIII-2, d'ailleurs. Vous entendez le thème de Fang. Alors, moi, c'est à partir d'un peu avant ça, mais en tout cas, là, ma culture Final Fantasy s'arrête. Je crois que t'as plus de choses à dire que moi sur Final Fantasy XIII.
Ouais, parce que j'ai joué à FF13. Parce que je l'ai fini. Parce que j'ai souffert pour le finir. J'ai un peu défoncé le jeu, hein, parce que c'est un FF que j'ai pas vraiment apprécié, parce que pas parce qu'il est fondamentalement mauvais, mais parce qu'à mon sens, il avait un énorme potentiel et qu'il l'a gâché par des erreurs de structure assez hallucinantes. Pour moi, c'est un jeu à faire quand même, pour montrer à quel point on peut foirer un jeu avec un level design, une structure narrative complètement chier. Dans FF13, il y a un prologue qui dure 7-8 heures, facile. Donc déjà, pour moi, c'est une grosse connerie. Parce que, surtout dans un genre de jeu, il faut avoir un début qui claque et qui donne envie de continuer tout de suite. Là, le problème, c'est qu'ils ont un système de combat qui est quand même intéressant, qui est assez jouissif, mais qui prend son plein potentiel quand on est à 3 dans son équipe. Et le problème, c'est qu'il nous faut un prologue de 6-7 heures où on est souvent tout seul, voire à 2 dans son équipe. Donc c'est complètement con. De 2, c'est un jeu qui est extrêmement linéaire. La linéarité, tu seras d'accord avec moi, n'est pas forcément un problème. Un jeu linéaire, ça peut être très bien. Le problème, dit, c'est qu'en fait, ils nous donnent des décors sur des grands plans panoramiques lors des cinématiques, des décors qui sont superbes. Et toi, la chose que tu as envie de faire quand tu vois ces décors-là, c'est de te balader dedans. Et là, non, ils prennent dans un couloir, donc du coup, en fait, tu vois un univers autour de toi, sauf que tu pourras jamais y aller. Donc c'est extrêmement frustrant. Il y a une structure narrative qui est une catastrophe aussi, c'est-à-dire que ça peut se résumer en gros à combat, personnage qui chiale, combat, personnage qui chiale, boss, bilan du boss avec les personnages qui chialent. Enfin, c'est une grosse foirade à plein de niveaux. Même si j'aime pas beaucoup le jeu, je trouve que la BO est une des meilleures qui m'a été donnée dans le droit, composée uniquement par Masashi Amaizu, qui avait déjà œuvré sur le 10 et le 10-2. Il a fait un travail qui est infiniment supérieur à ce qu'il a fait sur le 10, et avec une unité tout au long de sa BO qui est assez remarquable. Et le thème qu'on vous a passé ici, c'est le thème de Fang, qui est pour moi un des rares personnages réussis du jeu, qui a un caractère design vraiment classe, et c'est aussi un des rares personnages auxquels j'ai pas envie de coller des baffes. Donc voilà.
Voilà, alors juste il faut quand même préciser que Amaozu, comme tu le disais, il a travaillé effectivement sur la musique de FF10, mais il a fait quand même très très peu de morceaux. Ça reste quand même Uematsu dans l'ensemble, hein.
Ouais,
Donc c'est
mais
vrai que...
justement, je trouve que la BO d'FF10 pour moi est pas top parce que justement, il n'y a pas cette unité pour les autres en fait.
Donc le thème de Fang, voilà, en tout cas en piano collection, vous pouvez vous en délecter tout de suite. Et on va continuer avec un FF dont je crois on n'a jamais parlé, si je dis pas de bêtises, mais j'en dis peut-être, parce qu'au bout d'un moment, des FF on en a disséqué quelques-uns, et je ne sais pas si on a déjà parlé du 9 en l'occurrence.
Je crois pas.
Final Fantasy 9, donc encore une fois une piano collection. Le morceau s'appelle The Place I'll Return to Someday. Il s'agit de la troisième piste de cette piano collection de Final Fantasy 9. Toi, tu es en ce moment, tu nous l'as dit, hein, sur FF9.
Ouais, je vais recommencer des monologues parce que je suis dans FF, je suis dans FF. Pour la petite histoire, je l'ai recommencé après avoir vu l'artbook qu'un pote avait amené. Et l'artbook m'a mis vraiment sur le cul. Enfin, l'artbook FF9, je pense que enfin, c'est une référence à avoir pour ceux qui veulent faire du concept art parce que il y a des artworks de décors qui sont fantastiques. Il y a des lines de dingue, enfin, il y a des couleurs superbes. On comprend les espaces tout de suite dans les dessins, enfin, c'est magnifique. Et voilà, ce FF9 est beaucoup plus cartoon que les autres, avec des décors très fantaisistes, très colorés. Bon, c'est extrêmement agréable. Et bon, je parlerai pas du jeu plus que ça, parce que voilà, il y a plein de gens qui le feraient mieux pas. Mais pour moi, la BO, c'est la meilleure de tous les FF, parce qu'elle a une unité et une finesse qu'on retrouve dans les autres, mais qui, pour moi, est pas aussi marquante. Le thème principal de FF9, voilà, The Place I'll Return to Someday, je le trouve incroyable. La musique de fin est fantastique, il y a des thèmes de combat qui défonce tout, toutes les musiques d'ambiance sont incroyables, je suis en train d'y jouer en ce moment, c'est une baffe tous les instants,
Moi, c'est vrai que justement, en parlant de la BO, pour le coup, c'est pas une BO qui m'a tant marqué que ça. Je l'ai trouvée à mon goût, hein, un peu trop légère, je pense.
Ouais.
Ça tombe un peu trop, peut-être, pour moi, dans le médiéval, je sais pas. Ne serait-ce que la musique de Victoire, le fameux tin 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 tin. Ben, même ça, j'ai pas. J'étais déçu en fait en entendant ce thème. J'ai trouvé vraiment que, je sais pas, que ça manquait d'accroche. Enfin, après, c'est un avis
Ouais.
personnel, hein. Mais j'ai beaucoup plus été pris au trip par les BO des Final Fantasy de Super NES, hein, donc essentiellement le 5 et le 6, et celle du 7 aussi, que les autres. Ben, voilà. Après, ce sont des
Ouais,
avis.
les goûts et les couleurs.
Voilà, les goûts et
Les
les
goûts et les
couleurs. Et l'avantage avec les Piano Collections, c'est que tous les Final Fantasy sont égaux. Ils sont libres et égaux en droit, comme dirait notre chère Déclaration des droits de l'homme. Sauf que là, c'est une déclaration des droits des OST de jeux vidéo. Devant les Piano Collection, vous êtes tous égaux, et donc vous êtes tous repris au piano, et vous allez entendre donc cette reprise de Final Fantasy IX, The Place I'll Return to Someday.
Thank you.
Final Fantasy 1, Final Fantasy 7, Final Fantasy 9 et Final Fantasy 13. 4 extraits de Piano Collection, ce qu'on a partagé avec vous donc au sujet des Final Fantasy. Dans ce 15e épisode d'Original Soundbloggers consacré aux Piano Collections, dans les musiques de jeu, les arrangements et les reprises qu'on peut trouver au piano, qui ont été apportés donc par cette série de Final Fantasy, c'est pour ça qu'il fallait leur rendre hommage. Et on va venir à quelque chose de beaucoup plus récent et de beaucoup plus proche des goûts de Victor et de ce qui nous habituait dans Original Soundbloggers. On va parler de jeux indépendants, messieurs dames, avec un album. On va vous passer deux extraits d'un album d'arrangement entièrement dédié aux musiques de jeux indie qui s'appelle Indie Game Rhapsodies. L'album d'arrangement a été fait par Brent Kennedy. Il est sorti au début de cette année, début 2014, et ce que vous entendez en fond, on a également déjà parlé de ce jeu, il s'agit de VVVVVV. On en a parlé lors du sujet sur l'électro, et là on vous passe un morceau qui est un peu... c'est un peu le morceau où Magnus Palsson a tout mis dedans, et il s'est arrangé pour que tout, pour que le morceau ressemble un petit peu à tout ce qui était dans le jeu, qu'on entend justement à la toute fin du jeu. Le morceau s'appelle Popular Potpourri. Déjà le morceau en lui-même, en chiptune, est extrêmement surprenant, ça part dans tous les sens, et Brent Kennedy au piano a réussi à parfaitement le retranscrire, et pareil, on sent rien que même au piano déjà, on sait pas quand est-ce que ça va se stabiliser, c'est un peu rigolo, on sait pas où ça va, on a presque du mal à reconnaître le morceau d'origine, et pourtant on sait qu'il est là, on reconnaît la mélodie. Fin...
Déjà le mec, je sais pas comment il arrive à jouer à cette vitesse, enfin si, puisqu'il le fait, mais ça part tellement dans tous les sens que bon, le mec est très très fort.
Non, c'est vraiment, voilà, effectivement un très très bon album de Piano Collections, donc avec cette reprise de VVV, on est en train de vous le dire. Il y a également dedans, alors on a failli vous passer par exemple du Fez, du Faster Than Light, du Offspring Fling, il y avait également du Dust and Elysian Tale dont on a déjà parlé sur OSB, on aurait pu vous parler de Monaco, on aurait pu vous parler d'Aquaria encore une fois, et donc on a choisi ce VVV, et on a choisi également en diffusion de vous en passer une autre de cet album là, c'est le dernier morceau d'ailleurs de l'album, hein. Il s'agit d'un jeu qui a pas mal fait parler de lui récemment pour son originalité et pour son gros délire, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Octodad, ou plus exactement Octodad Deadliest Catch, hein, donc ce jeu où on contrôle un poulpe qui se fait passer pour un père de famille humain et qui doit faire des trucs comme les humains, sauf qu'évidemment c'est très dur de le contrôler. Donc Octodad, le morceau qu'on va vous passer s'appelle Nobody Suspects a Thing. Ça explique totalement donc la situation dans laquelle est notre cher ami Poulpe. Un jeu, évidemment, moi en tant que Poulpiblast, hein, qui me passionne et qui me fait rêver, mais je ne l'ai pas fait. Par contre, toi, Victor, tu l'as fait.
Ouais, je l'ai fait Day One. Je vous conseille d'écouter quand même la version originale de Nobody Suspects a Thing, qui est un espèce de morceau rock avec la voix du mec qui est fantastique. Enfin, c'est fait limite chanson humoristique, c'est... Enfin, moi j'adore. Et donc Octodad, voilà, on doit contrôler un poulpe. Alors je vais essayer d'expliquer les contrôles. Vous avez une gâchette qui permet de lancer les tentacules. Et on essaie de les bouger avec le stick, mais en fait, à chaque fois qu'on touche une gâchette différente, ça envoie une tentacule différente. Donc il faut essayer d'alterner les tentacules comme ça en les balançant à la chaîne. C'est hyper dur, c'est hyper compliqué, c'est complètement injouable. Enfin, c'est pas injouable, mais c'est énorme, quoi. Et on en a la limite à la fin à reproduire à l'identique, en fait, le mouvement que fait le personnage dans le jeu, parce qu'on essaie de se démerder, en fait. C'est un jeu qui est très drôle, qui met des situations, qui fait des situations du quotidien, des choses complètement bizarres, notamment au moment de choper une pizza dans un congélo, du coup, on s'infiltre dans les tuyaux, tant bien que mal. Je vous laisse imaginer le moment où il faut remonter les escalators qui vont dans le mauvais sens. Et alors c'est déjà drôle en solo, mais si vous avez l'occasion de le faire en multi, faites-le. Parce que moi, Octodad, ça dure 2h30, 3h le run, mais je l'ai fait avec des potes. On l'a fait à 4. Quand on joue à 4, chaque joueur contrôle un tentacule. Et c'est très très fandard, parce qu'il faut s'accorder avec ses potes en disant « Ouais non, mais mettez pas ta jambe ici !» C'est un jeu qui est à faire, parce que c'est complètement débile, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'Octodad, bah, y a un add-on gratos cet été, et qui va rajouter des nouveaux jeux qui est assez court de base, donc... C'est plutôt bien.
Voilà, donc très intéressant, et même niveau musical, effectivement, on se marre bien. Et donc, il y a ce type, Brent Kennedy, qui nous propose dans son album Indie Game Rhapsodies, ce morceau Nobody Suspects a Thing. On vous laisse avec ces 2 minutes de piano, et on se retrouve ensuite pour continuer avec non plus de l'indépendant, mais des morceaux pour lesquels on aurait bien aimé quand même qu'Onink fût là. Thank you. Octodad, hein, donc le fameux Octodad désormais avec Nobody Suspects a Thing, une version tout au piano. Et on va repartir du côté du Japon, on va repartir du côté des jeux pour lesquels on aurait bien aimé que notre copain Onyx soit là pour en parler avec nous, parce que ça c'est plutôt son rayon. On va commencer par un jeu que je ne connaissais absolument pas, mais apparemment Victor le connaît mieux que moi. Il s'agit de Sailing to the World. Vous l'entendez en fond actuellement, un morceau qui s'appelle Melody Go Round, donc issu de l'album d'arrangement Sailing to the World Piano Score. Alors, tu vas nous en parler un petit peu plus, Victor, mais je lis ici que l'arrangement est fait par Masashi Hamauzu, encore lui.
Oui, encore lui, donc c'est bien, on n'aura pas besoin de refaire le topo sur lui. Donc Sailing to the World, en fait, c'est un album d'arrangement qui a été fait par Yasunori Mitsuda originellement, et un album d'arrangement d'une OST fait pour un jeu PC taïwanais appelé Seven Seal. J'ai jamais entendu parler, genre j'ai vu ça, j'ai fait bon, ok. Je suis tombé sur la BO en allant sur Intigen, et j'étais vraiment surpris parce que la BO est une grosse tuerie. Surtout qu'en plus, étant donné, ça a été repris par Mitsuda, forcément c'est bien. Le mec ayant tellement d'influence et étant un talent fou, ça donne forcément des trucs cool. Alors en plus, quand c'est repris derrière par Masashi Hamauzu, qui n'est pas non plus un débutant, ça donne forcément quelque chose de très très bien. Je ne sais pas ce que t'as pensé toi de cette vidéo.
Donc moi j'en ai pensé que c'était peut-être un poil trop piano finalement. C'est un peu finalement le côté pas facile, mais c'est un peu le voilà le piano tel que je l'aime pas spécialement. C'est-à-dire que là c'est vraiment une heure à écouter du piano jazz et finalement voilà ça passe en ambiance, ça passe dans un resto, dans un ascenseur, ce que vous voulez. Mais moi écouter ça, après bon c'est une question de goût encore une fois, mais moi écouter ça pendant une heure, ça m'intéresse pas. En ce qui concerne le piano en lui-même, je préférais des trucs un peu plus classiques, voilà, un peu plus musique classique, hein, entendons bien, que là où je trouve que c'est vraiment voilà, des balades un peu jazzy qui, moi à titre personnel, m'intéressent pas spécialement. Mais il faut admettre que voilà, on a quand même deux grands monsieur qui savent faire de la musique et qui savent quand même parler, faire parler les notes d'une certaine manière. Donc ce Melody Go Round effectivement nous emmène. Alors on va continuer avec nos petits RPG japonais, enfin là on était à Taïwan, mais on va repartir au Japon en tout cas. Un RPG d'Atlus, sorti en 2007 sur Nintendo DS. Alors Atlus, on en a déjà parlé pour ses nombreux Shin Megami Tensei, hein, dont la série des Persona. On a également beaucoup parlé d'Atlus pour Catherine, dont on a déjà parlé aussi. Radiant Historia, dont on parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais là, on va parler d'un jeu qui s'appelle Etrian Odyssey. Alors, pareil, hein, là, encore une fois, Onyx fait partie de, je crois, si je dis pas de bêtises, de ces jeux cultes, donc on lui fait un petit coucou. Donc, Etrian Odyssey, sorti en 2007 sur Nintendo DS. Son titre original japonais, c'est Sekaiju no Meikyu, ce qui veut dire le labyrinthe d'Yggdrasil. Et encore une fois, les musiques sont, faut-il vraiment encore parler de lui, de Yuzo Koshiro. Voilà, notre grand copain qui fait encore une petite apparition comme au début. Alors, faut savoir que la série Etrian Odyssey s'est déjà bien développée, hein, puisque en 2012, elle sortait son quatrième épisode sur Nintendo 3DS. Vous allez entendre un morceau qui s'appelle The Withered Forest, qui est issu d'un album d'arrangement pour piano et violon, en tout cas pour piano et cordes, qui s'appelle tout bêtement Etrian Odyssey Live Music by Piano and Strings. Voilà, un arrangement de Norihiko Ibino. Donc je vous propose d'écouter tout de suite, le morceau s'appelle The Withered Forest, il est issu de l'album d'arrangement d'Etrian Odyssey. Thank you. voici, avec cet Etrian Odyssey, que nous arrivons au terme de ce 15e podcast d'Originals and Bloggers. On va quand même terminer un petit peu avec un autre jeu d'Atlus pour commencer, que vous entendez en fond actuellement. Le jeu s'appelle Radiant Historia, et il est sorti sur Nintendo DS en 2010. Pas sorti en Europe, malheureusement, hein, uniquement au Japon et aux États-Unis. Mais la musique est encore une fois composée par quelqu'un qui nous est assez familier, et si vous êtes habitué à écouter Original Soundbloggers, elle est familière pour vous aussi, cette personne. Il s'agit de Yoko Shimomura. Yoko Shimomura, donc, hein, en rappelons-le, c'est Madame Street Fighter 2, c'est Madame Kingdom Hearts, c'est Madame Super Mario RPG, c'est un petit peu Madame Xenoblade Chronicles aussi, c'est Madame Legend of Mana, etc., etc. Elle en a fait plein. Et donc là, on écoute en ce moment l'album de piano sélection de Radiant Historia. On écoute même la musique principale, hein, qui s'appelle éponymement Radiant Historia, et qui a été arrangée par Yoko Shimomura elle-même. Voilà, donc une musique vraiment très très, enfin pas forcément sobre, mais douce, mélancolique, un peu triste, très, voilà, qui tient un peu dans les graves, je trouve. On entend beaucoup les aigus, mais je trouve que les graves sont très très présents. Je sais pas si c'est mon casque qui fait ça ou quoi, mais ça renforce un peu le côté dramatique de cet arrangement. En tout cas, comme pas dire grand chose de plus sur Radiant Historia, eh bien, messieurs, dames, nous vous disons au mois prochain sur Original Soundloggers avec Geekport, et on va se quitter avec un jeu dont il va nous parler. On a déjà parlé aussi de ce jeu, je crois que c'est plus électro. Il s'agit de Super Meat Boy, je pense, hein, l'un des jeux indépendants les plus connus. Faut dire ce qui est, c'est parti, voilà, de ces jeux qui ont marqué le jeu indépendant, par sa difficulté, par ses musiques, par son design, par beaucoup de choses. Et donc on va écouter une surprenante reprise au piano du morceau Chad Lullaby, d'un album d'arrangement pour piano, hein, de Super Meat Boy, dont tu vas nous parler un petit peu plus.
Le thème de Chad, c'est le deuxième boss du jeu. Et alors je suis tombé via le bandcamp de Matt Kennedy, justement, dont on a déjà parlé pour l'album de reprise de Jean Harvey. Ce mec a fait les reprises piano de Binding of Isaac et Super Meat Boy. Et j'ai trouvé cet album vraiment génial parce qu'il arrive à retranscrire l'énergie qui est dans l'électro de Danny Barbanowski d'une manière assez brillante. Quand on voit les musiques, quand on écoute les musiques de Super Meat Boy, on se dit pas que ça va être repris au piano, quoi. C'est ça que j'admire avec ce mec, c'est qu'il prend des musiques qui ont vraiment rien à voir et qu'il les transmet au piano. Tout l'album est super, et c'est une des BO qui passe le plus dans mes oreilles au boulot avec Risk of Rain et la Piano Collection de Manny of Azak et Fez.
Voilà, et donc on se retrouve le mois prochain sur Original Soundloggers pour un 16e épisode. On ne vous dit pas le thème, ce sera une petite surprise. D'ici là, portez-vous bien comme chaque mois, et à très vite. Ciao ciao.